Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Alors ce sont certainement des chiffres que les grands patrons du monde, qui sont actuellement réunis à Davos, ont scruté de près. Les défaillances d'entreprises repartent à la hausse. Plus 10% cette année, plus 14% en 2023, selon les prévisions mondiales de l'assureur Allianz. Alors dans ce débat du jour, on va principalement s'intéresser à la situation de la France, où l'on observe également ce retour des défaillances d'entreprises. Est-ce un retour à la normale, finalement, avec la fin des aides exceptionnelles accordées dans le cadre de la crise du Covid-19? Ou est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation? D'autant plus dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, qui apporte de nouvelles incertitudes. Quelle perspective pour les entreprises? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. D'abord à mes côtés en studio, Anne Pollard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine, conseillère scientifique à France Stratégie, qui est une institution autonome placée auprès du Premier ministre. Et puis vous êtes la co-auteure de plusieurs notes sur les défaillances d'entreprises pendant et après le Covid, qui nous intéresse fortement. La dernière notamment, défaillances d'entreprises, toujours pas d'effet de rattrapage post-Covid. Face à vous, Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Chef économiste au BDO. Cabinet de conseil économique, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des prévisions économiques. Ça va être intéressant de voir ce vers quoi on se dirige. François Colombier, notre troisième invité, est en ligne avec nous. Bonsoir François Colombier.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'Observatoire des très petites entreprises, rédacteur en chef de TPE Magazine. Vous nous parlerez justement de la situation de ces très petites entreprises en France. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Anne Pollard, pour débuter, est-ce qu'on peut faire un bilan de ce qu'ont pu apporter aux entreprises les aides mises en place par le gouvernement français pendant cette pandémie de Covid-19?
Alors, il est trop tôt, comme toujours, pour faire un bilan définitif. Au moment de la crise, au moment où on était en confinement, tout le monde avait très peur que ça se traduise par des défaillances en chaîne des entreprises, d'où une politique qui a été très très généreuse et qui de fait a réussi à non seulement éviter un surcroît de défaillances, mais surtout à aboutir au fait qu'on avait finalement très 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 peu de défaillances en 2020. Il y en a eu très peu en 2021. Et là, cette année encore, on est parti sur une tendance qui est certes un petit peu plus dynamique qu'en 2021, mais qui est encore sur un train très très bas par rapport aux années avant. Mmh. Donc les aides qu'ont reçues les entreprises, dont certaines, elles vont devoir les repayer parce que c'était des prêts garantis par l'État, ces aides ont quand même joué un rôle majeur dans l'amortissement du gros choc macroéconomique qu'on a eu.
Ces aides, on peut donner deux chiffres, 700 000 entreprises qui en ont bénéficié, 240 milliards d'euros sous forme de prêts. Ça, c'est effectivement inédit. Ça a permis de maintenir à flot ces entreprises. 2020-2021, vous l'avez dit, les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi faibles en France qu'en 2020-2021.
Bah oui, c'est-à-dire que les entreprises, avec ces prêts garantis, même quand elles n'avaient plus de revenus, elles parvenaient à rembourser leurs fournisseurs, qui du coup, eux-mêmes, remboursaient les leurs, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on craignait, c'était des effets dominos. Et ça a été complètement arrêté. Mmh. Donc, et même au-delà. Mais au moment où les PGE ont été lancés, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On ne savait pas qu'on allait trouver un vaccin rapidement. Et donc, il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour protéger tout le monde pour une période dont on ignorait le temps qu'elle allait durer. Et là, les entreprises commencent à rembourser, alors pas nécessairement très très rapidement, mais elles commencent à rembourser ces PGE. Mmh. Et puis, on ne voit toujours pas de défaillance. Donc on n'a pas de phénomène de rattrapage, ça c'est sûr.
Il y a une souplesse du gouvernement français parce que le désengagement se fait progressivement. Déjà, justement, les remboursements peuvent s'étaler sur 10 ans. Et vous disiez effectivement, les entreprises commencent à rembourser les prêts. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des, on disait, 700 000 entreprises qui ont reçu ces prêts ont commencé à le rembourser. Donc, il y a une souplesse du gouvernement pour justement amortir ce choc-là.
Oui, c'est le gouvernement et puis les banques qui ont accordé ces prêts avec la garantie du gouvernement. Au début, c'était des prêts pour un an. Ça a été effectivement étendu avec des capacités de remboursement très étalées. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors, avec les deux chocs qui arrivent, celui des matières premières liées à la guerre en Ukraine, et puis celui de la rupture des chaînes d'approvisionnement qui a suivi juste la fin de la pandémie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les cartes pour le futur. Mais pour l'instant, les entreprises françaises, en moyenne, y compris les TPE, peut-être qu'on me contredira plus tard, vont plutôt bien, ont plutôt de la trésorerie, et elles sont un peu plus endettées mais qu'auparavant, mais elles ont les moyens de rembourser. Donc pour l'instant, elles ont été maintenues à flot, oui.
Vous avez de la trésorerie, François Colombier, membre de l'Observatoire des très petites entreprises.
Oui, l'Observatoire des TPE, qui est un organisme de la Confédération nationale des très petites entreprises, la CNTPE, juste pour préciser. Mm-hmm. Les entreprises ont la trésorerie, c'est indiscutable. Il y a eu moins de défaillances indiscutables, mais on sait très bien que la moyenne de défaillance, c'est environ 40-50 000 par an. On est très en dessous. Forcément, c'est mathématique, ce chiffre sera rattrapé. En sortie de crise, une hausse des défaillances arrivera. On ne peut pas faire ça autrement. Il y a également pas que les défaillances, il y a les radiations d'entreprises. Il y a eu 310 000 entreprises radiées l'année dernière, en 2021, une hausse de 30%. Il y a les PGE et également les dettes sociales qui seront à rembourser. C'est de la dette, hein, les PGE, les dettes. On parle de dettes, on parle de l'argent effectivement qui a été prêté aux entreprises qu'elles devront rembourser. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, ce n'est pas tant de trésorerie dont on parle aujourd'hui, c'est d'incertitudes, d'inquiétudes. On ne sait pas, les patrons de TPE ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. C'est vraiment ça qui les inquiète avant tout.
Alors on va revenir vers vous, François Colombier. On a bien compris l'incertitude, même si les chiffres sont rassurants. Ou en tout cas pas inquiétant à ce stade. On va revenir vers vous. La liaison téléphonique n'est pas parfaite à ce stade. Anne-Sophie Alsif, j'aimerais vous entendre, vous qui êtes professeur d'économie. Une définition d'abord des défaillances d'entreprise, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Donc en effet, c'est quand une entreprise fait faillite, hein, puisqu'en effet, elle n'arrive pas à payer ses charges, ses fournisseurs, et donc forcément, elle met, on va dire, la clé sous la porte, entre guillemets. Ce qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on a vu, c'est vraiment la dichotomie de la situation. C'est-à-dire que grâce au quoi qu'il en coûte, comme on l'a expliqué, on a des chiffres macroéconomiques qui sont assez bons. On l'a vu, hein, même dans les prévisions, hein, le taux de marge des entreprises est revenu au niveau d'avant-crise. Hein. On voit qu'il y a de la trésorerie, hein, qu'il y avait des perspectives qui étaient assez bonnes même avant la guerre en Ukraine. On était sur 2022, sur encore une année de rattrapage, on devait avoir une forte croissance. Donc au moment où on se parle, on a des chiffres qui sont assez bons. Et comme on l'a très justement dit, le problème, c'est vraiment l'anticipation et de se dire, eh bien voilà, on a cette situation macroéconomique qui, pour l'instant, est bonne, mais comment ce sera demain? Et il faut vraiment insister sur deux éléments, la dichotomie entre les services et l'industrie. C'est l'industrie aujourd'hui qui est la première impactée avec la très forte augmentation du coût des intrants, des coûts de production, des coûts des matières premières. Et on a vraiment des secteurs comme la métallurgie, la pharmacie, la chimie, le transport qui sont très impactés. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est très important de le dire. Il y a vraiment le problème inflationniste, mais aussi le problème des chaînes d'approvisionnement. Donc des secteurs là qui sont plus impactés qu'on va dire les secteurs en général. Et puis les services, hein, qui sont moins inflationnistes, qui sont moins touchés par la situation inflationniste, qui sont moins imbriqués dans les chaînes de valeur, donc de fait qui subissent moins les perturbations et les conséquences de la crise ukrainienne, mais qui, eux, ne sont pas revenus à leur situation d'avant-crise, sont souvent plus endettés, de plus petite taille, hein, avec des gains de productivité plus faibles que dans l'industrie. Donc, ils, là aussi, peuvent être en difficulté dans les prochains mois, mais pas pour les mêmes causes. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir regarder, sachant qu'en France, on est une économie de services, hein, donc vraiment dans ce second cas. On reste plus protégés, on le voit, de nos partenaires européens, notamment Pays-Bas, Allemands, de l'inflation. Mais ça reste conjoncturel. Et c'est vrai que les prochains mois, même si pour l'instant les chiffres sont assez bons, pourraient se dégrader. Et puis enfin, le dernier élément, c'est vraiment la structuration de nos entreprises. Hein. La majorité de nos entreprises sont de très petite taille. Des fois, avec une structuration assez familiale, hein, financée uniquement nos entreprises par les banques, hein, très peu par les marchés. Et donc, en effet, là aussi, hein, si on a une politique monétaire qui est de moins en moins accommodante, ça pourrait aussi avoir des conséquences sur le financement de ces entreprises pour les prochains mois.
Donc, vous nous dites l'industrie, qui est le secteur qui a le plus souffert, finalement, les services qui s'en sortent mieux. Est-ce que c'est une situation qui peut changer avec la guerre en Ukraine? Est-ce que ça, c'est post-pandémie de Covid-19? Est-ce que ça peut complètement s'inverser? Est-ce que ce sont d'autres secteurs? Vous avez évoqué, évidemment, la hausse des matières premières, l'inflation, ça s'est créé par la guerre en Ukraine. Est-ce que ça peut complètement rebattre les cartes des secteurs en difficulté en France?
Alors oui, sur les questions de financement. Hein, comme je l'ai dit, on a vraiment cette politique monétaire qui est moins accommodante, donc des hausses de taux. Je vous dis, la majorité d'entreprises en France sont financées par les banques, pas par le marché, hein, même si ça essaie de se développer. Et donc, de fait, hein, il pourrait y avoir, avec en effet des prêts garantis par l'État qui ont été très utilisés, donc beaucoup d'entreprises qui doivent aussi rembourser, qui sont fortement endettées, et bien avoir un peu une remise à plat secteur-là et avoir dans les prochains mois l'ensemble des secteurs qui sont touchés vraiment par deux éléments. Hein. L'inflation, donc là pour l'instant c'est plutôt l'industrie, mais ensuite si elle reste haute et si la politique monétaire n'a pas à court terme les effets escomptés, ça pourrait bien sûr aller au service. Et donc là on serait, on va dire, dans une inflation plus globale, même si encore une fois on n'est pas au niveau allemand ou des Pays-Bas. Et puis l'autre élément, hein, chaîne d'approvisionnement, problème de capital humain, hein, de trouver de la main-d'œuvre dans des secteurs, on l'a dit, hein, notamment dans les services, c'est assez prégnant, aussi dans l'industrie, dans certains secteurs d'activité. Donc là aussi, hein, ces deux éléments viennent jouer encore négativement en plus de la crise ukrainienne.
Vous avez évoqué l'Allemagne, les Pays-Bas. Est-ce qu'on peut faire d'autres parallèles avec les situations à l'étranger concernant ces défaillances d'entreprises? Parce que j'ai donné des chiffres au niveau mondial. Hein, 10% cette année de défaillances d'entreprises attendues, 14% en 2023, c'est ce qu'affirme Allianz. Et effectivement, je vais donner les chiffres de la France, je ne l'ai pas encore donné. Au moins 30 000 défaillances d'entreprises en 2022. Ça prend 40% d'augmentation par rapport à 2021. Mais on l'a dit avec Anne Pollard, c'était inédit 2020-2021. Ouais. Le peu de défaillances d'entreprises. Comment ça se passe à l'étranger?
Alors, c'est assez différent puisqu'en effet, les Pays-Bas ou l'Allemagne sont des pays industriels et exportateurs. Donc, eux, ils subissent de plein fouet les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les difficultés de transport et l'explosion des coûts de transport et aussi leur plus forte dépendance par rapport aux hydrocarbures russes. Donc, c'est vrai que ces pays-là, je ne dirais pas sont plus récessionnistes, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises risquent d'être beaucoup plus impactées que les entreprises françaises, où je vous dis, on n'est plus dans les services. On parle assez de notre faible industrialisation. C'est vrai qu'à court terme, on peut voir que ça peut ponctuellement nous protéger un peu par rapport aux défaillances.
François Colombien, on vous retrouve de l'Observatoire des très petites entreprises. Justement, ces prêts, vous avez, effectivement, vous en avez beaucoup profité aux très petites entreprises. Est-ce que vous commencez à les rembourser? Comment ça se passe?
Alors, profiter, déjà, c'est un grand mot. On n'a pas profité de rien du tout. On a essayé de sortir la
tête. Il n'y avait pas de connotation. Il n'y a pas de connotation.
Hein, non, profiter. Les mots d'importance. Je voudrais revenir sur une question du financement des TPE. Je répondrai à votre question après, mais juste une petite parenthèse. Oui. Parce que les TPE sont celles qui ont le plus de mal à avoir l'accès au financement des banques. 10% d'entre elles ont du mal à avoir des crédits d'investissement. 20% d'entre elles ont à avoir des crédits de trésorerie. Donc, la situation est forcément compliquée pour elles. Alors oui, les TPE commencent à rembourser les PGE, commencent à rembourser les dettes sociales. L'URSSAF commence à leur tomber dessus. Mais dans le même temps, il y a la hausse des prix des matières premières. Par exemple, pour les restaurateurs, c'est catastrophique, le prix des denrées alimentaires. Il y a la hausse de l'énergie qui pose d'énormes problèmes aussi. Donc voilà, la situation est compliquée. On pensait pouvoir se sortir de la crise Covid et tout ce qui arrive rajoute de la difficulté à la difficulté. C'est ça, en ce moment, ce que vivent les patrons de TPE. Peut-être moins de défaillances, on va les rattraper, beaucoup de radiations. Et des patrons de TPE, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, des patrons de TPE qui, pour la plupart, pour la moitié d'entre eux, gagnent moins que le SMIC. Il faut avoir ça en tête aussi.
Anne Pollard, on va rentrer dans le vif du sujet. Défaillance d'entreprise, toujours pas d'effet de rattrapage post-Covid. Ça, c'est une des notes que vous avez publiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, les défaillances d'entreprise, on l'a dit, sont en hausse, mais elles ne sont pas encore au niveau pré-pandémique.
Ah non, on est très très en dessous de l'année 2019. Et monsieur parlait de prévision de 30 000 défaillances d'entreprises pour l'année 2023, ou peut-être était-ce vous, pour l'année 2022. Mmh. Et en 2019, il y en avait eu quasiment 40 000. Donc même si on en a 30 000 en 2022, ce sera toujours très en dessous des niveaux de la pandémie.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter du tout?
Si, il faut s'inquiéter. Il y a des entreprises qui ne vont pas bien. Mmh. Mais en moyenne, les PGE et puis les aides et le chômage partiel qui a été développé pendant la pandémie a permis aux entreprises de passer l'étape qui était vraiment une étape très très qui était insurmontable sans aide. Donc pour ça, elles ont été aidées. Elles ont reçu des PGE, elles ont pu en demander.
Prêts garantis par l'État, c'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois PGE.
Prêts garantis par l'État. Et ces prêts garantis, comme le disait M. Colombier, en fait, d'habitude, elles ont énormément de difficultés d'accès au crédit bancaire. Et là, tout d'un coup, le crédit bancaire leur a été ouvert dans des proportions relativement importantes. Certes, ce n'est pas des dons, certes, il faut le rembourser. Mais par rapport à une situation où les banques auraient été très frileuses de prêter. Le PGE, ce prêt garanti par l'État, a quand même permis et leur permet toujours de se financer, certaines, et pour certaines même d'investir et de se moderniser.
Et effectivement, je vais citer 14% des PME et TPE qui auraient utilisé leur fameux PGE, justement prêt garanti par l'État, pour investir. Ça va dans le sens de ce que vous dites. Ça, c'est une étude de BPI France et Rexecode. François Colombier, ça vous inspire quoi, ces chiffres? J'entends par chiffres, au moins 30 000 défaillances d'entreprises en 2022, comme nous l'a dit Anne Pollard, c'est moins que 2019, la situation d'avant la pandémie.
Oui, oui, tout à fait. Faut pas oublier aussi qu'en 2020, les tribunaux de commerce ont été fermés, ce qui a forcément, par un effet logique, diminué le nombre de défaillances. On ne peut pas croire que ce chiffre de défaillances, qui est deux fois plus bas que la moyenne qu'on constate depuis 15-20 ans, on ne peut pas croire que ce chiffre ne sera pas rattrapé. Je veux dire, c'est arithmétique. Forcément, il y avait des entreprises qui étaient fragiles avant le Covid, qui n'ont pas retrouvé leur santé à la sortie de crise. Donc forcément, le nombre de défaillances va augmenter. Mais c'est pas vouloir qu'elles augmentent. Pour moi, c'est simplement un effet mathématique, un effet arithmétique. Pour l'instant, on est dans le rattrapage. Il y a effectivement une bonne année 2021 qui venait après une année 2020 tellement catastrophique que 2021 ne pouvait que être bon. Mais aujourd'hui, 2022, avec l'inflation, avec les pénuries, avec les problèmes de recrutement, avec les problèmes de coûts d'énergie, je suis... assez inquiet sur la santé des TPE, qu'il faut le rappeler au passage, représente 95 voire 97% des entreprises françaises.
Anne-Sophie Alsif.
Alors oui, hein, c'est sûr qu'on va aller vers une hausse complètement, parce qu'on était un petit peu mis sous couvercle pendant et avec ce quoi qu'il en coûte. Et en effet, les aides vont baisser et seront beaucoup plus ciblées par secteur et très spécifiques. Après, là encore, il faut regarder globalement, hein, même si en effet, beaucoup d'entreprises étaient assez endettées. On l'a dit, ce quoi qu'il en coûte a été assez efficace et a permis à beaucoup d'entreprises, certes, de revenir au niveau du taux de marge de 2019. Et ça, on le voit déjà dans les chiffres, même si c'est au niveau macroéconomique, donc tout confondu, et également d'investir, hein, comme vous l'avez dit dans votre étude. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que globalement, hein, on a toujours entre 10 et 13% de ce qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui vont mal économiquement, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément dues à la conjoncture. Donc ça existe toujours. Et donc c'est vrai que pendant ce quoi qu'il en coûte, il y a pu avoir ce couvercle qui protège un petit peu donc de ça et de ces chiffres, qui fait que c'est normal d'avoir des défaillances. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un effet rebond. Mais après, hein, vraiment, il a été assez efficace, quoi qu'il en coûte, pour préserver le tissu productif globalement. Donc même si on s'attend sûrement à une hausse, on ne sera peut-être pas sur une explosion. Et en tout cas, à mon sens, s'il y a des explosions, des très fortes défaillances, ce sera vraiment dans des secteurs spécifiques, ciblés, qui sont vraiment, comme on l'a dit, les secteurs les plus impactés par la guerre, par l'inflation, par les coûts de main-d'œuvre.
On va écouter François Colombier qui souhaite réagir, mais c'est intéressant ce que vous dites sur les entreprises zombies. Ça veut dire que finalement, sans les aides de l'État, ces entreprises aujourd'hui n'existeraient plus?
Tout à fait. Mais sans aide de l'État, quand vous regardez les autres années, c'est tout à fait normal. Chaque année, il y a des entreprises zombies, hein, qui peuvent être aidées, qui peuvent profiter de prêts et finalement qui économiquement ne sont pas fiables et tombent. Ça existe et c'est normal dans une économie.
Mais il y en a eu plus qui ont été, comme on dit, anesthésiées aujourd'hui.
Exactement. Comme on a eu le quoi qu'il en coûte, c'est sûr que ces entreprises-là, qui peut-être allaient mal avant la crise, ont pu être plus aidés, mais c'était l'idée de préserver tout le monde. Donc c'est sûr qu'on aura un effet de hausse parce que voilà, le couvercle va partir. Et en plus, des entreprises comme celles qui pouvaient être zombies, qui étaient peut-être dans une situation économique un peu délicate, pourraient là aussi être dans une défaillance. Donc on est un peu dans une situation de normalisation plutôt que d'explosion.
C'est ce que j'allais dire, un retour vers la normale, c'est ce que dit l'expert en prévision économique que vous êtes. Rapidement, François Colombier, avant d'écouter Anne Pollard.
Bien sûr. Rapidement, sur le quoi qu'il en coûte, personne ne remet en question le rôle protecteur de couvercle, comme vous avez très bien dit, du quoi qu'il en coûte. C'est la façon dont on va en sortir de ce quoi qu'il en coûte. Et je crois qu'il est vraiment important que tout le monde, qu'on ne laisse pas les entreprises toutes seules dans la nature, que les pouvoirs publics, que les banques, que les collectivités les écoutent, aillent à leur rencontre et voient quelles sont leurs préoccupations pour continuer à les aider d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment ça qui est important. Ne laissons pas les TPE toutes seules face aux énormes problèmes auxquels elles font face.
Alors, il y a cet accompagnement, je disais, à Anne Pollard qui se poursuit. Le désengagement, par exemple, des prêts se fait progressivement sur 10 ans. Allô ? François Colombier.
Excusez-moi, je pensais que vous parliez à Anne.
Non, je voulais juste vous relancer sur ce point-là pour vous dire que finalement, il n'y a pas un désengagement total de l'exécutif.
Il n'y a pas un désengagement total. On est content d'ailleurs, effectivement, de la prorogation du remboursement. Ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Mais tout est très, très loin d'être réglé. C'est vraiment le message qu'on a sur le terrain quand on va à la rencontre des patrons, des petits patrons. Je le disais tout à l'heure au début, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas ce que va devenir la pandémie. On ne sait pas ce que va devenir la guerre. Donc, ces petits patrons qui sont le cœur de l'économie, qui sont le cœur de la proximité, qui font marcher l'emploi, qui font marcher l'économie française, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on les aide et ils veulent être entendus.
Anne Épaulard, je disais 14% des PME, des TPME qui auraient utilisé leurs prêts pour investir. Ça veut dire que finalement, la pandémie a permis de redynamiser le tissu économique français ?
C'est-à-dire que la pandémie va se traduire, et peut-être que les bouleversements actuels aussi, se traduisent par des changements de composition dans l'économie française. Il y a des entreprises et des secteurs qui perdent, il y a des entreprises et des secteurs qui gagnent. Et celles qui gagnent, celles qui sont dans une bonne situation, ben oui, le PGE leur a permis d'investir. Et ben c'est tant mieux. Et dans le même temps, le PGE a permis à celles qui étaient dans une situation plus difficile du côté de la pandémie de ne pas mourir. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est qu'il y a quand même une grande inconnue en ce moment. C'est que pour la première fois, depuis très longtemps, depuis le milieu des années 80, on va avoir une inflation relativement élevée. Si jamais ça perdure pendant 1, 2, 3 ans, on peut avoir quand même confiance en la Banque Centrale Européenne pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais on va quand même se retrouver dans une situation d'inflation qu'on n'a pas vécue depuis longtemps, que les chefs d'entreprise n'ont jamais connue, ou alors les plus anciens d'entre eux. Et ça veut dire... Et l'inflation, elle peut, dans certains cas, avoir des effets bénéfiques sur certaines entreprises, notamment quand vous avez une dette. L'inflation, ça met un peu d'huile dans les rouages. Ça peut vous aider à rembourser la valeur de votre dette, puisque facialement, enfin réellement, la valeur de votre dette diminue. Donc l'inflation, on présente ça comme quelque chose de néfaste. On en souffre tous quand on va faire nos courses au supermarché ou quand on va acheter des matériaux pour faire des travaux dans sa maison. Mais pour les gens qui sont endettés, pour les entreprises qui sont endettées, finalement, ça peut être une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut que l'inflation, c'est une bonne chose en absolu. C'est mieux si on en a peu. Faut quand même en avoir un peu. Et puis, il y a quand même des secteurs qui vont bénéficier ou des entreprises qui vont bénéficier sur surcroît d'inflation.
Mais j'entends ce que vous dites. Ça va être intéressant d'entendre François Colombier justement sur ce point-là de l'Observatoire des très petites entreprises. Une bonne chose, pas toujours, nous dit Anne Épaulard, mais parfois une bonne chose d'inflation. Qu'en pensez-vous ?
L'inflation n'est pas une bonne chose. Enfin, encore moins si elle se transforme en stagflation. Et on en est plus très loin aujourd'hui avec la croissance pratiquement à l'arrêt et l'inflation qui augmente. L'inflation, par contre, on ne la retrouve pas sur les prix des fonds de commerce, par exemple. Les restaurateurs, les hôteliers vont souffrir beaucoup de ça. Ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils veulent revendre leur entreprise. Donc, il y a tout un marché de reprise et de vente d'entreprise qui va être ralenti. L'inflation, là, je vous le disais tout à l'heure, les restaurateurs, je reviens à cet exemple-là, la ressentent sur le coût des matières premières. Et puis, alors forcément, on essaye et pas que les restaurateurs, d'ailleurs l'ensemble des entreprises, et forcément, on ne va pas répercuter directement cette hausse sur les clients. Mais au bout d'un moment, les marges diminuent. C'est un petit peu un problème auquel, au quotidien, les dirigeants font face.
Anne-Sophie Alsif.
Par rapport à ça, c'est vrai que la complexité de la situation, c'est qu'on a une demande qui est là. Et beaucoup d'entreprises, quels que soient les secteurs, en fait, ont une demande, des carnets de commandes, mais voilà, ont des problèmes de recrutement, des problèmes de matériaux avec des coûts qui augmentent. L'autre élément, c'est plutôt en fait quelque chose de positif d'avoir de la demande, d'avoir des clients, mais les problèmes, c'est en effet le recrutement et c'est l'approvisionnement. Donc on n'est pas dans une situation de crise où en fait il n'y a pas de demande, il n'y a pas de clients, il n'y a rien, et donc les entreprises font faillite par rapport à ça. Donc c'est ça vraiment la difficulté. de la situation qui est assez paradoxale. Et puis l'autre élément, en effet, avec cette demande, c'est en effet comment on réagit, comment les entreprises s'adaptent par rapport à ça. Est-ce que les ménages vont continuer de consommer? Et qu'est-ce qu'on voit pour répondre à M. Colombier? L'année dernière, en 2021, on s'attendait à avoir 6,75% de croissance, disait l'INSEE. On est finalement allé à 7%. Pourquoi? Parce qu'on a eu un dernier trimestre très bon, notamment en consommation. On a commencé à avoir des hausses de prix. On se souvient de chaînes de grande distribution, d'immobilier ou encore d'électroménager qui ont augmenté de 6-8% leur catalogue en fin d'année. Et il n'y a eu aucun impact sur la consommation, voire plus, la consommation était très importante parce qu'il y avait un taux d'épargne qui était là et parce que les gens voulaient consommer en rattrapage. Donc, il y avait déjà de l'inflation, déjà une hausse du coût de l'énergie, déjà une hausse du coût des intrants. Les entreprises ont augmenté, en effet, leur prix et les consommateurs ont dit présent et ont continuer à consommer. Donc là, je ne dis pas que c'était un jeu gagnant-gagnant, mais en tout cas, malgré, on va dire, les perturbations, on était sur une tendance plutôt positive. Là, ce qui change, c'est vraiment, en effet, les perspectives. Ce n'est pas la situation actuelle, au moment où on parle, qui est plutôt bonne. C'est dans les perspectives et c'est de se dire, attention, les entreprises vont continuer, et c'est tout à fait normal pour garder leur temps de marge, qui, je rappelle, sont revenus au niveau de 2019, donc ont été reconstitués, vont vouloir peut-être augmenter leur prix pour justement combler ce coût de l'inflation. Est-ce que le consommateur sera là? Parce que si il est là comme l'année dernière, je dirais que bien sûr, ce n'est pas toujours fantastique comme situation, mais du coup, pour l'entreprise, il y a des clients et des clients qui paient et qui prennent l'augmentation du coût à leur charge. Si par contre, le consommateur se dit attention, moins de politique budgétaire, moins de politique monétaire, des perspectives avec une augmentation du prix de l'énergie qui va continuer, notamment à la rentrée, eh bien là, attention, je vais peut-être moins consommer. Et c'est à ce moment-là que ce sera plus difficile pour l'entreprise parce qu'il y aura des coûts qui auront augmenté, mais le consommateur ne sera pas là. Donc c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut essayer, à mon sens, de comprendre pour voir que cette situation est vraiment très compliquée par rapport, on va dire, à une situation classique de crise puis de rebond.
Mais complexe, évidemment, en raison de l'enjeu du pouvoir d'achat aujourd'hui en France.
Exactement, le pouvoir d'achat.
Anne Pollard, Anne-Sophie Alsif, parler d'un retour à la normale, justement, sur cette hausse des défaillances d'entreprise. C'est le cœur de notre débat ce soir. Finalement, vous qui avez parlé de l'effet positif de l'inflation, est-ce qu'on peut voir aussi un effet positif dans ces défaillances d'entreprises qui reviennent? Est-ce que ça permet, et ça renvoie à la fin des entreprises zombies aussi qu'on évoquait, eh bien de renouveler ce tissu économique et de le dynamiser? Alors, j'évoquais les prêts qui ont été utilisés pour dynamiser le tissu économique, mais là, en tout cas, ces défaillances d'entreprises, est-ce qu'elles permettent justement cette relance du tissu économique français?
Ah oui, normalement, c'est un petit peu le rôle des défaillances. On appelle ça la destruction créatrice. Il y a des nouvelles entreprises qui arrivent, qui rendent d'autres un petit peu obsolètes, qui font faillite. Et puis, du coup, les entreprises les plus efficaces survivent et celles qui sont moins efficaces, elles disparaissent. Alors, tant que l'histoire est celle-là, c'est bien. On a besoin de défaillances, puis on a besoin de création d'entreprises parce que ça permet de faire de la croissance. Ce qu'il faut éviter, c'est que des bonnes entreprises meurent parce qu'elles ne trouvent plus de financement, alors qu'en fait, elles ont de la demande, elles ont de la main-d'œuvre, elles ont tout ce qu'il faut, et puis elles ne trouvent pas de financement auprès de leur banque et elles meurent. Donc ça, on veut absolument éviter ça. Mais le phénomène d'entreprises qui disparaissent ou qui se font radier, qui mettent la clé sous la porte, c'est un phénomène économique normal. On en a besoin. Ce qu'on veut éviter, c'est que des bonnes entreprises meurt. Ça, c'est grave.
Le danger, c'est les déséquilibres entre secteurs, finalement, en raison de l'imprévisibilité actuelle, qui évite, pas tomber dans quelque chose d'aussi simple, des entreprises qui vivent, qui meurent. On risque aujourd'hui d'avoir un déséquilibre plus profond.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous dites. L'économie, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. En ce moment, ça s'accélère un petit peu. Donc, c'est dans ce sens que ça peut être un petit peu plus dangereux.
Les obstacles, la hausse des matières premières, l'inflation. Mais il y a des secteurs qui souffrent davantage.
Oui, l'industrie, comme disait Anne-Sophie Alsif. Peut-être que Anne-Sophie voulait...
Par rapport à ça, rapidement. C'est vrai qu'il y a, je sais pas qu'il y a des secteurs gagnants, mais par exemple, c'est vrai qu'on est avec la crise, tout ce qui est secteur de la santé, vous avez énormément de start-up, d'entreprises qui ont maintenant qui arrivent à lever des financements beaucoup plus facilement. On voit l'aéronautique avec la reprise du trafic qui est encore plus robuste que ce qu'on attendait. L'agroalimentaire, le secteur du luxe, donc le secteur spatial aussi. Enfin, il y a des secteurs aussi qui vont bien et je ne dis pas qu'ils profitent de la crise, personne ne profite. Ou... Mais en tout cas, étant donné que ce sont des, comme disait Anne, des entreprises qui sont dans les secteurs de mutation et de transition, eh bien donc du coup, profitent plus facilement que celles qui sont en effet plus perdantes.
Et on va terminer avec ces bonnes notes. On a eu quelques élans positifs dans ce débat. C'est intéressant. Anne-Sophie Elsif, merci, chef économiste au BDO. Merci Anne Épaulard, professeur d'économie à Paris, Dauphine. Et merci à François Colombier de l'Observatoire des très petites entreprises. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Merci à vous de l'avoir écouté.